Matière à penser, Antoine Garapon.
Quatrième épisode de cette série consacrée à la figure de la victime. Comment dépasser les torts du passé avec Magali Besson. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que la condition de victime ne pouvait être un état, une ontologie, mais elle était toujours une situation dont il faut sortir. Comment s'en sortir? Comment imaginer, réaliser un moment de justice qui n'est pas nécessairement un procès, un moment qui permette de dépasser la coexistence de groupes victimisés et de descendants ou de représentants de leurs persécuteurs sur un même territoire. C'est une question qui agite beaucoup nos sociétés contemporaines depuis des décennies et à laquelle s'intéresse Magali Besson, professeure de philosophie à Paris 1, qui a consacré plusieurs articles. Bonsoir Magali Besson.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, je disais que nos sociétés sont travaillées par cette question, chacune à sa façon d'ailleurs. Aux États-Unis avec les Noirs et avec cette souvenir de l'esclavage. Nous, en France, c'est bien sûr plutôt une souvenir de la colonisation. Colonisation, esclavage aussi dans les Antilles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'actions qui ont été menées pour tenter de réparer les torts du passé?
Oui, alors, il me semble que la manière d'aborder peut-être cette question, lorsqu'on s'intéresse à la question des réparations au titre de la traite et de l'esclavage colonial notamment, qui est, vous avez raison, une question bien énormément abordée depuis, je dirais, le tournant du 21e siècle en France. Une manière de penser...
Postérieurement, d'ailleurs, aux affaires de repentance et de justice transitionnelle, il y a toujours un petit temps de décalage. La question des réparations se pose toujours après la question de l'établissement des torts et des crimes.
Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est que un élément important, je crois, pour penser ces demandes ou ces revendications de réparation au titre de la traite et l'esclavage colonial, c'est précisément la loi de 2001, dite loi Taubira, qui a porté reconnaissance de la traite et de l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité, c'est-à-dire, en effet, qui a donné une catégorie juridique à ce qu'on s'accordait à considérer comme des crimes sur le plan moral.
C'est ça, c'est une qualification juridique.
Absolument.
Qui était d'ailleurs une première qu'un législateur se hasarde à définir, à faire une loi qui n'avait pas beaucoup de contenu normatif en dehors de l'enseignement qui était une loi mémorielle. Comme on dit, c'est-à-dire une loi qui portait une qualification juridique d'un phénomène massif qui s'est déroulé sur plusieurs continents et sur plusieurs siècles, mais il manquait quelque chose dans la loi Taubira, Magali Besson.
Alors, disons que ce qui est intéressant lorsqu'on s'intéresse à cette loi, c'est de regarder sa première formulation, lorsqu'elle a été proposée par Christiane Taubira, et sa dernière formulation, celle qui a été finalement validée. La première formulation mentionnait la question des réparations explicitement. Et elle est, au cours des débats à l'Assemblée nationale, elle est devenue, en effet, et vous avez tout à fait raison de la qualifier ainsi, une loi mémorielle, une loi déclarative, c'est-à-dire dont l'essentiel du contenu normatif consiste à déclarer que la traite et l'esclavage étaient des crimes contre l'humanité, mais sans que aucune force véritablement normative et ou répressive soit associée à cette déclaration.
Sans que ça soit une loi qui engage, c'est-à-dire que si elle avait eu une dimension financière ou réparatrice, on a l'impression que c'est pas uniquement de la mémoire, c'est pas une parole verbale, c'est pas une loi simplement pour faire plaisir à certains, mais c'est une loi qui engage l'État. On a fait que la moitié du chemin avec la loi Taubira.
Oui, et là encore, on voit ce chemin petit à petit se défaire au cours des débats, puisque dans la première formulation, il s'agissait de proposer la constitution d'un comité de personnes qualifiées pour établir le préjudice et la réalité de la réparation. Et puis, petit à petit, cette formulation a été extrêmement discuté, hein, et il est très clair lorsqu'on regarde les minutes des débats qu'il s'agit surtout d'ôter cette dimension de réparation ou de loi réparatrice d'une certaine manière de la loi Taubira pour en arriver à l'idée que ce comité de personnalités qualifiées serait simplement là pour la mémoire du crime, mais en aucun cas pour établir le préjudice qui pourrait éventuellement entraîner une demande de réparation légitime.
Mais Magali Besson, il reste alors la justice, il reste les juges.
Oui, bien évidemment.
C'est-à-dire que comme souvent, ça c'est un phénomène qu'on voit dans beaucoup d'autres domaines, la loi, en raison des compromis parlementaires, est un produit semi-fini qui doit être terminé par le juge constitutionnel ou le juge pénal ou le juge civil. En l'occurrence, ça n'a pas manqué.
Alors, en l'occurrence, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu, en effet, des demandes, enfin des plaintes déposées, notamment au tribunal de Fort-de-France, très vite, en 2005, des plaintes qui ont tenté d'utiliser cette loi Taubira et d'autres lois ou décrets ou propositions pour demander réparation. Mais les juges, là encore, ne sont peut-être pas allés au bout de la possibilité d'inventer.
Le pouvait-il ?
Non, enfin...
C'est ça le problème.
Il me semble qu'en effet, c'est tout à fait... Et je pense que, et là, voilà, que la question des réparations doit être bien davantage une question traitée par le législateur que par le juge, en réalité. C'est-à-dire qu'il me semble que le déplacement de la question des réparations dans le champ du judiciaire ou de la justice corrective est un déplacement qui est voué à échouer. La question des réparations, me semble-t-il, est une question politique qui doit émaner d'abord d'une volonté politique.
Oui, mais alors on vous répondra, Magali Besson, que le judiciaire, la justice peut avoir un rôle de mise à l'ordre du jour et peut relancer la question. Alors, ça n'a pas été tellement le cas des affaires que vous avez étudiées, l'affaire de Fort-de-France d'ailleurs, qui a été assez peu médiatisée en France, c'est ce qui est surprenant. Non, ça vous surprend pas?
Je suis moyennement surprise.
Oui.
Et la manière dont elle a été médiatisée était souvent précisément avec deux grandes entrées. La première était de reprocher aux plaignants de jouer victime contre bourreau et donc de jouer dans un cadre accusatoire un cadre accusatoire des demandes de réparation. Reproduisant et tentant ainsi de reproduire à l'extérieur du prétoire une procédure qui est celle du procès, de la mise en accusation, de la demande d'un verdict,
de la détermination d'un coupable.
Voilà.
C'est ça.
Et donc ça, c'est une grande entrée dans la manière dont ce procès a été couvert lorsqu'il a été couvert. La deuxième, en effet, a été de réfuter la légitimité même de cette question, c'est-à-dire la question des réparations n'est pas une question pertinente dans un contexte français.
On va reprendre quelques éléments de cette affaire parce que c'est intéressant, mais curieusement, les juges ne se sont pas déclarés incompétents. Ce qui est assez courageux de leur part, c'est qu'ils ont dit, bon, allons-y, vous demandez, vous avez finalement, vous êtes recevable.
Les parties ont été jugées recevables, absolument.
Ça, c'est quand même une nouveauté. Ça, c'est quoi? C'est quand même quelque chose de très important d'un point de vue judiciaire.
Absolument. D'autant que les parties étaient constituées de deux ordres de plaignants, des personnes individuelles, physiques, et des associations. Et les juges ont jugé recevables les deux, les personnes physiques et les personnes morales. C'est-à-dire donc des individus qui avaient témoigné du fait qu'ils étaient effectivement des descendants de personnes mises en esclavage et à ce titre demandaient réparation, et des associations soit anti-racistes, soit anti-colonialistes, le Mouvement International pour les Réparations Martinique, qui demandaient, eux, que soit établie une fondation pour les réparations, sous la forme donc d'une manière de réparer financièrement, mais pas évidemment à titre individuel, mais à titre d'association.
Il y a un élément qui est très intéressant sur lequel vous insistez, que j'ai découvert, je dois le dire d'ailleurs en vous lisant, c'est la manière dont l'esclavage a détruit aussi la filiation. et donc a détruit l'institution de la famille. Et réclamer que des descendants d'esclaves prouvent leur filiation et disent qu'ils ont été les héritiers en quelque sorte de ce préjudice, c'est en soi très très compliqué, en raison même de la nature du préjudice qui leur a été porté.
Oui. Alors là, en fait, je pense qu'il faut nuancer un petit peu ce que je disais dans cet
article. Vous revenez sur
là,
vos déclarations, Magali Besson.
Oui, parce que en fait, il y a deux choses, je pense, à considérer. La première, c'est qu'il n'était demandé de filiation établie qu'à partir de l'émancipation, 1848, c'est-à-dire de l'acte d'émancipation des esclaves.
Et donc ça à partir du moment où il y avait un état civil.
Voilà.
C'est ça.
Deuxièmement, cette idée d'aliénation natale ou de désaffiliation familiale est surtout vraie, en réalité, je crois, dans le cadre de l'esclavage aux États-Unis, ou tel qu'il s'est mis en place aux États-Unis, mais plusieurs historiens, Myriam Cotias parmi oui. d'autres, ont travaillé sur justement cette institution familiale, mais sur d'autres bases, qui s'est mise en place dans les colonies françaises esclavagistes. Et donc je pense que l'analyse d'Orlando Patterson, qui est celui qui a proposé la notion de désaliénation natale, est peut-être beaucoup plus vrai dans le cadre de l'esclavage états-unien que dans le cadre de l'esclavage français.
Lequel esclavage français, je l'ai appris là en préparant ce dossier d'ailleurs, a été par certains côtés beaucoup plus dur que l'esclavage américain, était plus rigide. C'est ce qui est surprenant. Enfin, revenons à nos juges, qu'est-ce qu'ils décident?
Oui, alors d'accepter
d'entendre l'affaire,
de juger recevable les parties, mais d'estimer qu'il y a d'une certaine manière prescription. Le crime ayant été commis il y a plus de 150 ans, si l'on se base sur, encore une fois, le 1848 et l'abolition de l'esclavage, et l'État n'étant pas, à ce titre, susceptible d'être déclaré coupable pour ses actes.
Magali Besson. Je m'adresse bien sûr à la philosophe que vous êtes et qui, moi personnellement, ça me pose un problème sur la nature de l'événement historique. C'est-à-dire que un événement historique comme l'abolition de l'esclavage, qui est le fruit de luttes, de réclamations, de tensions politiques. Et d'ailleurs, la personne de Victor Schœlcher est une personnalité extrêmement intéressante, qui est quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui avait une véritable pensée. Bon, bref, on pourrait dire la même chose de la guerre de sécession aux États-Unis pour ce qui concerne l'esclavage dans le Sud. C'est-à-dire que quelle est la signification d'un événement historique, d'un événement émancipateur, lorsque on réclame des préjudices pour la phase antérieure. Ça veut dire que, en quelque sorte, l'événement ne marque plus le temps. L'événement ne sépare plus le moment de l'oppression, le moment de la libération. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'antipolitique, c'est un peu excessif, mais quelque chose de négation du travail politique de l'histoire?
Il me semble que ce qui est important là, en l'occurrence, c'est que précisément l'esclavage, qui a été aboli en tant que système légal, juridique et politique, en réalité avait mis en place des structures sociales, politiques, économiques, qui, elles, n'ont pas été abolies par l'acte d'abolition. Et ce pourquoi il est demandé réparation, c'est précisément, et la manière dont on demande réparation, c'est précisément pour que soient corrigées des injustices actuelles qui ont certes une racine dans un système esclavagiste du passé, mais qui perdurent encore aujourd'hui, précisément parce qu'elles ne sont pas liées causalement à quelque chose qui serait une succession d'événements dont on pourrait faire une chronologie simple, mais parce qu'elles sont liées structurellement à la mise en place d'un système qui n'a pas été aboli.
Alors, on peut continuer la réflexion, Magali Besson, on peut la continuer, et d'ailleurs, ça va peut-être toucher une distinction qui est faite aujourd'hui dans le débat, je pense notamment à Catherine Lu. C'est-à-dire que pour un juriste, pour les juges, pour le droit, les droits, ils connaissent des actions de personnes, de tous les côtés. Action des personnes qui réclament des dommages et intérêts contre d'autres personnes. Il ne peut pas faire autre chose. La justice ne peut pas faire autre chose que de statuer sur des actions ou des préjudices causés aux personnes. Or, quand on s'adresse, à juste titre, quand vous soulignez à juste titre que les structures anthropologiques et les structures sociales et les structures économiques de production n'ont pas bougé, n'ont pas disparu, parce qu'on les supprime pas d'un trait de plume, elles sont pas l'objet d'un décret, mais qu'elles sont, elles constituent de véritables socles d'une société. Ben ça c'est en dehors du droit, c'est-à-dire que le droit ne peut rien faire, les juges ne peuvent rien faire.
Absolument, c'est la raison pour laquelle. Je disais tout à l'heure que situer les réparations dans le domaine du juridique ou du judiciaire, au lieu de le situer dans le domaine politique, est une erreur de lieu, de location, de localisation de la question des réparations.
Comment ils auraient pu faire autrement ?
Alors, ils l'ont fait pour une raison, et vous l'avez dit tout à l'heure, ils l'ont fait par légalisme stratégique, d'une certaine manière, pour ramener la question des réparations dans la conversation nationale, pour essayer de faire de la question des réparations un sujet dont on parle, et dont on parle ensemble. Alors ça marche plus mieux aux États-Unis qu'en France, ce type de, à mon avis, ce type de stratégie, tout simplement parce qu'en France, la justice est beaucoup moins visible, s'expose beaucoup moins.
N'est pas cet acteur politique majeur qu'elle est aux États-Unis.
Exactement.
Bien sûr.
Donc je pense, vous parliez tout à l'heure des journaux, de la réception dans la presse. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu, l'affaire aurait pu être davantage couverte, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Si ça a été invisible, hein, c'est parce que les juges en France n'ont pas coutume de parler publiquement au nom de normes et de principes qu'ils mettraient sur la scène publique afin qu'ils deviennent les objets d'une discussion. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, certaines associations ont tenté ce légalisme stratégique et le tentent encore, et je pense que c'est une stratégie parmi d'autres. Mais la question des réparations se conceptualise et la pratique de la demande de réparation est beaucoup plus forte lorsqu'elle se fait dans le champ politique. Et c'est la raison pour laquelle, je disais, elle relève plutôt, me semble-t-il, du législateur que du juge.
Alors, c'est ça. On va venir au champ politique, mais avant d'aller au champ politique, je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour l'indemnisation de la Shoah, pour laquelle il y a eu des demandes adressées au tribunal administratif, qui me semble d'ailleurs d'une très bonne stratégie, parce qu'en France, on connaît l'importance du Conseil d'État comme étant le juge de l'État profond, notamment de cette entité politique qui n'est plus, qui excède les personnes individuelles, qui excède les corps physiques, et qui ont d'ailleurs rendu un avis, mais à mon avis extraordinairement important en matière d'indemnisation de la Shoah, où le Conseil s'est comporté véritablement comme des juges, comme de véritables juges, c'est-à-dire, et qui ont apporté un épilogue très bien pensé, très bien fait, très bien dit aussi, à cette longue période de la déportation des Juifs de France pendant le régime de Vichy. Il n'y a pas eu, le Conseil d'État s'est pas emparé de cette question de l'esclavage et colonial.
Non, il me semble que une des raisons pour lesquelles, en effet, ça n'a pas eu cet effet-là, c'est que la question de l'esclavage colonial engage, pour pouvoir être traité politiquement, une réflexion sur des inégalités, des aliénations raciales.
Et il me semble... quelque chose dont on n'aime pas parler en France.
Voilà, que c'est quelque chose dont en France on ne veut pas parler, quelque chose dont on craint de parler, et qui, à mon avis, si on le laisse de côté, rend la question des réparations au titre de l'esclavage colonial assez incompréhensible.
Est-ce que vous ne croyez pas aussi, Magali Besson, qu'il y a un effet d'éloignement ? Je suis frappé dans le débat français que, aussi bien pour les colonies que pour l'esclavage, ça s'est passé ailleurs, quoi. Ailleurs que sur le territoire national, ailleurs que dans le théâtre de notre imaginaire historique français. Alors vous faites la moue, bien sûr.
Oui, bien sûr, je fais la moue, parce qu'évidemment, le territoire national n'est pas que le territoire métropolitain.
Bien sûr.
Et c'est juste, il me semble que là, c'est au contraire. Parce que nous avons tendance à considérer que le territoire de la France est la carte de la météo avec la métropole et la Corse, et non pas l'ensemble du territoire français, que nous avons tendance à imaginer que ça s'est passé ailleurs.
Mais cette perception de l'espace est en soi un problème.
C'est elle, exactement, c'est elle qui est un problème.
my city, king of my country, king of my homeland, king of the filthy, king of the fallen, we living again, king of the shooters, looters, boosters, and ghettos popping, king of the past, present, future, my ancestors watching, king of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed, king of the wisdom, king of the ocean, king of the respect, king of the optimistic and dreamers, they go and get it, king of the winners, district and geniuses with conviction, king of the fighters, king of the fathers, king of the belated, king of the answer, king of the problem, king of the forsaken, king of the empathy and resentment, king of remorse, king of my enemies, may they fall defeat, I rejoice, king of the skyscrapers, dodging haters, broke religion, nine faces, go against them, I erase them with precision, I embrace them with collision, kings did it, king's vision, Black Panther, King Kendrick, all hail the king.
I dropped a million tears. I know several responsibilities put me here. I don't pedal backwards, but I live old-fashioned. The lens that I'm looking through won't prescribe you the right glasses. Masses are now free. Ashes I'm dumping out, about to spread all across seas. Sisters and brothers in unison, not because of me. Because we don't glue with the opposition. We glue with peace, but still a fuck up your organization. If any beef, what do you stand for? Are you an activist? What are your city plans for? Are you an accident? Are you just in the way? Your native tongue contradicting what your body...
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec vous, Magali Besson, qui avait choisi de nous faire entendre ce morceau de rap de Kendrick Lamar, Black Panther.
Oui, alors j'ai choisi ce morceau parce qu'il est en effet le premier sur l'album Black Panther, qui est la bande originale du film Black Panther, sorti très récemment.
C'est un événement.
Et qui a été un événement, absolument, voilà. Et qui a été salué globalement comme la première fois qu'un film grand public par les studios Marvel mettait en scène un héros noir, donc Black Panther ou N'Challa, qui vient d'un royaume, le Wakanda, hein, ouais. Un royaume qui contient le vibranium, le métal sur lequel rien n'est possible dans le monde des super-héros. Si le film a été salué, alors c'est un film de super-héros très bon, mais comme il y en a eu d'autres, mais si le film a été salué, c'est précisément parce qu'il a signifié pour un certain nombre de gens, de groupes, la présence dans un film grand public, dans un film de pop culture, la présence d'un héros noir. Et Black Panther, le personnage des Marvel, est apparu en 1966, créé par Stan Lee. C'était la première fois qu'un héros noir apparaissait dans, encore une fois, cet univers des comics américains. Et 1966, ça n'est évidemment pas par hasard. On est en plein mouvement pour les droits civiques.
Alors, si on revient à notre sujet, qui est celui de la réparation, des réparations, comment on dépasse ces brûlures de l'histoire, c'est très intéressant. Parce que d'ailleurs, je remarque que le mot king revient tout le temps. Évidemment. Je suis le roi. C'est-à-dire que, il y a une demande de reconnaissance derrière. Évidente.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre là sur cette question des réparations. Je dirais que les demandes de réparation sont de quatre ordres. Il y a les réparations, dans le domaine psychologique existentiel. Alors là, victime souvent individuelle d'abord, quoiqu'au titre de mon appartenance à un groupe, je demande à être réparée pour une brisure, une cassure, une méconnaissance de mon identité qui a engagé un déni identitaire, et je veux être réparée, c'est-à-dire mon être.
Quelque chose à voir avec le corps et l'individu.
Exactement, quelque chose à voir avec le corps et l'individu. Mais ça, c'est la réparation existentielle au titre d'un traumatisme...
Ça, c'est ce que font tous les jours les juges pour des victimes directes d'infractions.
Absolument. Et c'est ce qu'on fait aussi beaucoup, les commissions Vérité et Réconciliation. On parle toujours de celle d'Afrique du Sud, hein, qui est la grande... Voilà, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui demandent aux victimes de venir, mettre en place et en scène une catharsis qui leur permette de se réparer intérieurement. C'est-à-dire de réparer vraiment cette blessure psychique qui est la leur. Le deuxième domaine des réparations, on en a parlé en première partie de l'émission, ce sont les réparations comme compensation financière ou indemnisation. avec soit l'idée de la restitution de quelque chose qui a été volé, pris, dérobé.
Qui peut toujours être mal vécu, qui peut être indigne. On se souvient que Ben Gourion, a été mis en difficulté lorsqu'il a accepté les réparations allemandes. Il y a une partie de l'opinion publique qui a été extrêmement violente contre le père de la nation israélienne quand même, parce qu'il avait accepté.
Oui, il y a là, en effet, donc lorsqu'on quitte la restitution, mais pour aller vers la compensation ou l'indemnisation, en effet, il y a là le problème que pose l'idée que l'argent serait compensateur universel, une sorte d'accord, enfin d'objet qui rend possible un accord sur la valeur.
Et qui pourrait laisser penser que ça va cesser, qu'il va être à lui-même capable de faire cesser la condition de victime et tout préjudice, ce qui est bien sûr au-delà de ses forces.
Absolument. Et aussi que on peut avoir, grâce à l'argent, quelque chose comme un étalon universel de la souffrance, du tort, du préjudice, de la douleur. Donc d'un côté, il y a cette idée-là, c'est-à-dire l'indemnisation financière repose sur la croyance que l'argent suffit. Et puis d'un autre côté, il y a le prix du sang, hein, ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'idée que c'est ajouter l'insulte à la souffrance que de imaginer que de l'argent versé par des bourreaux suffirait à compenser les victimes de leur
tout à fait. Mais c'est très intéressant et c'est très profond d'ailleurs cette question. On va pas la résoudre aujourd'hui, mais je remarque que Zimmel dans L'Argent remarque que beaucoup de menées prennent pour étalon la valeur du prix de la vie d'un homme. Mmh. C'est extraordinaire de voir à quel point l'argent, et d'ailleurs on le voit dans le terme paiement, hein, qui vient de paiement, pacification, c'est quasiment le même mot d'ailleurs. Hein. Donc on voit la valeur sociale de cette entité calculable. C'est ça
tout
qui est
fait.
Très paradoxal dans l'argent.
Là, il y a quelque chose de très intéressant et qui me fait toujours penser à ce que dit Hobbes sur la valeur d'un homme, ce que vaut un
tout
homme.
À fait.
C'est précisément ce que d'autres seraient prêts à payer d'une certaine manière pour son pour lui, c'est-à-dire et pour son pouvoir. Mais... Et Hobbes le dit très bien, hein, la valeur d'un juge en temps de paix n'est pas la même que celle d'un soldat en temps de guerre. Et donc la valeur est circonstancielle, mouvante. Mais donc il y a ce niveau-là, celui des réparations financières et matérielles, donc restitution des terres ou compensation sous forme de paiement.
Qui sont deux opérations complètement différentes.
Absolument,
on y reviendra. Parce que la restitution, on peut restituer une tête de Maori qui a été emmenée dans un musée français.
Oui, mais on peut.
On peut. Et la restitution est totale une fois que la tête a regagné et qu'elle a pu faire l'objet d'un enterrement rituel. Très bien. La vie, une fois qu'elle a disparu, elle est par définition irréparable.
C'est ça. Et donc, on en arrive du coup à l'idée qu'il faudrait la compenser, mais on retombe sur la question.
Et donc, on est obligé d'avoir recours à des systèmes symboliques.
Ouais. C'est ça. De cette irréductibilité de notre finitude, comme en parle notamment, par exemple, Shankelevitch. Le troisième niveau, je dirais, est le niveau symbolique, c'est-à-dire la demande de réparation qui s'incarne essentiellement dans les excuses ou l'expression de regret ou de remords. Et à ce niveau symbolique, je pense qu'on peut aussi associer ce dont on parlait un petit peu plus tôt, qui est la qualification juridique. C'est-à-dire dire, nous les Allemands, nous présentons nos regrets pour le massacre des Hereros. C'est pas tout à fait la même chose symboliquement que de dire, nous présentons nos excuses pour le génocide des Hereros. C'est-à-dire que la qualification là est juridique bien évidemment, mais elle est aussi très fondamentalement morale et symbolique.
Tout à fait, parce qu'elle fait référence à une échelle de valeurs commune à la personne victime et à l'auteur, et donc qui est une manière de sortir ou de limiter la toute-puissance de l'État, en l'occurrence le général von Trotta ayant agi au nom de l'État allemand. Donc on est dans un processus de symbolisation.
Oui, absolument. Et ça, c'est, à mon avis, c'est un niveau qui n'est pas négligeable, quoique les excuses soient souvent qualifiées de facilité, d'hypocrisie ou de gestes sur la scène.
On le voit aujourd'hui pour le débat sur la torture. Le nombre de la difficulté extraordinaire, 60 ans après, 70 ans après, à prononcer le mot. Mm-hmm. À prononcer le mot, qui est un mot terrible, qui qualifie une situation terrible. Mais on voit cette résistance au sein de la société française à dire la réalité, à qualifier juridiquement le réel.
Oui, qu'il s'agisse des événements, de la guerre.
Tout à fait.
Oui. Vous avez entièrement raison.
Troisième niveau, symbolique.
Voilà. Et le quatrième niveau, me semble-t-il, est politique. Et c'est là qu'on revient à l'importance qu'a eu justement Black Panther. C'est-à-dire, à mon avis, c'est une importance qui n'est pas que symbolique, mais qui est véritablement politique. C'est-à-dire, c'est la mise sur une scène, qui est une scène publique, d'une parité de participation, en tout cas de la revendication d'une participation égale à... non seulement des prises de décisions politiques, mais également à la représentation dans les parlements, etc., mais également la représentation dans l'espace public de groupes qui estiment avoir, et à juste titre, la plupart du temps, qui estiment avoir été marginalisés ou privés de toute représentation ou de toute existence politique par des crimes dont... la reconnaissance aujourd'hui et la réalité à nouveau de la parité de participation de ces groupes permettrait de rendre réparation.
C'est ça. Ça c'est l'argument de Nancy Fraser de manière générale sur la reconnaissance, Magali Besson, que je trouve personnellement très convaincant. C'est-à-dire que la demande de reconnaissance ne prend son sens ultime que par une égale participation à la chose publique. Elle ne peut pas être la fin d'une revendication politique.
Absolument, et c'est la raison pour laquelle si je mets de côté la réparation existentielle, il me semble que ni la reconnaissance purement symbolique, ni la redistribution uniquement financière ne permettent de rendre compte de ce qui se joue dans les demandes de réparation, qui me semble être de l'ordre de cette demande de reconnaissance politique, c'est-à-dire reconnaissance d'une parité de participation. Vous et moi devons nous reconnaître comme des égaux, comme des pairs, c'est-à-dire autorisés exactement de la même manière à participer aux décisions politiques, mais aussi au récit historique qui est le récit de ce nous que nous constituons désormais ensemble. C'est la raison pour laquelle les demandes de réparation dans leur dimension de travail d'histoire, d'enseignement de l'histoire et de recherche sur notre histoire relève pleinement de cette dimension politique.
Mais Magali Besson, est-ce que vous n'avez pas peur, est-ce que vous ne craignez pas que l'arrêt de ce processus, vous nous décrivez quatre étapes. Et ces quatre étapes sont indispensables les unes aux autres, c'est-à-dire les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie d'une, on ne peut pas peut-être les faire en même temps, mais on ne peut pas s'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la société française aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose aux États-Unis, on l'a vu avec Marc Lilla en début de cette série. Est-ce que le risque, c'est que le processus se grippe et que la relation victimaire ne fasse pas autre chose que de s'inverser, et alors que les persécuteurs ont persécuté, aujourd'hui ils sont symboliquement, médiatiquement persécutés entre guillemets par leurs anciennes victimes. On est dans une sorte de cercle infernal. Voilà. Et est-ce que nos politiques aujourd'hui n'ont pas une réelle difficulté à passer la quatrième, si je m'exprime ainsi, c'est-à-dire à entrer dans ce niveau politique, dans ce niveau du récit?
Oui, je crois qu'en effet, ce qu'on voit là, à l'heure actuelle, c'est un blocage, comme vous le dites très bien, Antoine Garapon, c'est un blocage de cette manière de faire ensemble notre récit historique. Maintenant, que les anciens persécuteurs du passé se vivent comme des victimes médiatiques aujourd'hui, il me semble que... Alors oui, on l'entend, bien évidemment, ce discours de « vous nous demandez de la repentance, vous nous demandez de nous rendre coupables de crimes » contre lesquels nous n'avons rien pu, puisque nous n'étions même pas nés, la communauté morale a changé, nous ne croyons plus dans ces principes qui gouvernaient.
C'est l'exemple que donnait Marc Lilla. Marc Lilla disait, moi, parmi mes étudiants, j'ai des jeunes noirs qui viennent de la bourgeoisie noire, qui ont eu une enfance très heureuse dans des beaux quartiers, ils ne sont en rien victimes. Et donc, le fait d'être obligé d'épouser ou de chanter une sorte d'antienne en disant, groupe victimisé, il dit, ça n'a aucun sens. Et ça a un côté pervers qui nuit à ceux qui viennent véritablement de quartiers très défavorisés où l'éducation est terrible, où il y a une discrimination patente.
Oui, mais ça, il me semble que c'est parce qu'il y a une confusion importante et qui est entretenue par ceux qui réfute ou nie ce discours au nom d'une sorte de repentance ou d'un devoir de se repentir qui leur serait imposé. Il me semble qu'il y a une confusion entre culpabilité et responsabilité. Les générations actuelles ne sont pas coupables de la traite et de l'esclavage tels qu'ils se sont produits dans l'histoire. En revanche, ils sont responsables de reconnaître, et là reconnaître au sens acknowledgement, pas au sens recognition, mais de reconnaître, et c'est là qu'entre en jeu l'histoire.
Expliquez en un mot cette différence entre recognition et acknowledgement.
C'est reconnaître au sens de... acknowledgement, admettre, connaître. D'accord, acknowledgement, il y a know dedans, connaître, alors que recognition, c'est plus intersubjectif, c'est l'idée d'une reconnaissance d'un autrui. Mais donc il s'agit de reconnaître que nous sommes issus d'une histoire qui n'est pas passée, que nous sommes notre histoire. Et ça, c'est une formule qu'utilisait notamment James Baldwin dans le documentaire I'm Not Your Negro qui a été produit l'année dernière. James Baldwin dit « Nous sommes notre histoire » et ne pas la reconnaître ferait de nous des criminels. Nous devons admettre que nous sommes notre histoire et qu'à ce titre, nous sommes responsables aujourd'hui, devant chacun d'entre nous, de porter cette reconnaissance dans la sphère publique et de travailler ensemble à une réconciliation. Et cette responsabilité en vue d'une réconciliation, elle ne repose pas sur le blâme ou la culpabilité.
C'est ça. Mais cette distinction est très importante et d'une recension que vous avez faite, Magali Besson, d'un livre que je n'ai pas lu, de Catherine Lu, elle semble faire avancer la réflexion en proposant cette différence entre, d'une part, justice et réconciliation, et surtout entre la justice interactionnelle, donc celle effectivement de l'imputation et de l'imputation personnelle, celle des corps physiques, premier stade, celui dont vous parliez, et une justice plus de nature structurelle. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est une manière beaucoup plus apaisée et beaucoup plus constructive et positive, forward looking, hein, pour prendre les termes de Catherine Lu, hein, mais qui est notre tâche aujourd'hui pour sortir définitivement de cette coexistence des victimes et de leurs persécuteurs sur la même communauté politique.
Oui, l'idée n'est pas de réparer l'histoire, hein, selon le titre de votre ouvrage. Peut-on réparer l'histoire? La réponse est non, est un clair non.
Et la justice en convaincre le reste des autres.
Voilà. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est réparer le tissu social actuel. Et pour cela, on a besoin de l'histoire. Mais l'histoire comme cette science qui travaille à partir de témoignages, d'archives, qui comprend et reconstitue comment précisément un événement du passé n'est pas simplement du passé, mais produit encore aujourd'hui des effets persistants qui sont des effets d'inégalité, Catherine Lu parle à la fois d'inégalité et d'aliénation, c'est-à-dire des effets qui pèsent sur la manière dont des individus se constituent ensemble comme agents de discours reconnus comme tels, comme agents communs.
C'est ça. Et d'une histoire qui s'écrit avec les personnes. Je suis très intéressé par des ouvrages comme celui, par exemple, de la Maison éternelle sur l'histoire du bolchevisme, ou bien alors le livre de Peter Englund sur la guerre 14, parce que c'est une histoire qui nous la fait comprendre à travers des parcours individuels, à travers des sensibilités, à travers des espoirs déçus, à travers une violence souvent d'ailleurs terrible, mais qui donne une autre perception de l'histoire que celle d'une histoire objective, froide, de transfert, de chiffres, une histoire comptable, on pourrait dire.
Oui, on a besoin, on a besoin pour écrire cette histoire commune, de prendre en compte le fait que l'historien et les sujets sur lesquels il travaille sont tous des sujets parlants, des sujets qui partagent. Alors, les sujets sur lesquels il travaille sont des sujets, donc non pas des objets, c'est-à-dire que leurs témoignages sont des discours produits en première personne, que bien entendu, il s'agit de croiser avec d'autres témoignages et à partir d'archives et de traces matérielles et moins matérielles de ce passé. Mais l'historien est lui aussi un sujet qui produit du discours actuel à partir de ces sujets du passé. Et il y a là quelque chose comme justement une structure qui est une structure sociale, politique, mais qui est aussi une structure de discours.
Magali Besson, est-ce qu'un récit de souffrance, est-ce qu'un récit négatif peut réunir ? C'est-à-dire que ce que vous nous dites, ça a été les historiens de la Troisième République, ça a été les historiens qui ont essayé d'écrire une histoire glorieuse de la France, comme tous les peuples, c'était pas du tout spécifique à la France. C'est plus difficile quand il faut s'identifier à des gens qui ont fait des choses terrible. On voit bien la difficulté en Allemagne aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs comment il y a des retours de flamme, oui. Des répliques. Comment, selon vous, on peut penser, reconstruire avec des historiens, avec la politique, de manière constructive et positive, avec l'horizon de dépasser la victimité, l'histoire coloniale, par exemple, ou l'histoire de l'esclavage colonial?
Dépasser, je sais pas si la question c'est de
non, c'est pas ce que je voulais dire. Dépasser, c'est-à-dire vaincre, c'est-à-dire passer d'une histoire, d'une mémoire vive, anguleuse, pleine de ressentiments, à un dernier acte qui permet de penser à l'avenir.
Mais je pense qu'il faut admettre que nous avons besoin d'une transformation dans nos manières de penser ce qu'est le nous. C'est-à-dire qu'en effet, tant que nous considérerons qu'il y a des groupes en face à face, des victimes et des bourreaux, des descendants de victimes et des descendants de bourreaux, des coupables et donc des victimes, pour prendre le thème de votre session, nous n'arriverons pas à dépasser cette espèce d'ancrage dans quelque chose qui nous pèse, qui nous plombe. Mais si nous acceptons que l'histoire s'écrit dans un partage des non pas seulement des mémoires, mais des discours communs sur ce qui fait du nous. Le nous ne sera pas simplement celui des descendants de maîtres ou des descendants d'esclaves, mais le nous est nous tous ensemble qui héritons du fait que, encore une fois, la France n'est pas que la France métropolitaine, mais précisément une France beaucoup plus élargie.
Et qu'il la mettrait à l'heure de la mondialisation et à l'heure de ce nouveau rapport à l'espace. Qui est la mondialisation, qui passe par une déterritorialisation partielle, qui appelle en retour une redéfinition du pacte civique. Sans ça, on ne s'en sortira pas.
C'est ça. Il faut arriver à redéfinir le pacte civique par l'histoire et la géographie internationalisée dans une théorie du nous qui n'en fait plus, encore une fois, des face-à-face, mais une nouvelle citoyenneté, peut-être.
Mais une théorie du nous, un nous actif aussi, Magali Besson, parce que je crois que dans la citoyenneté, il y a une dimension affective, émotionnelle, comme on dit aujourd'hui par un affreux anglicisme. Ça aussi, il faut le retrouver.
Il y a une dimension politique, et dans ce politique, j'entends à la fois de la prise de décision politique, c'est-à-dire le partage de chacun à la prise de décision politique qui les concerne, mais aussi de récits historiques de ce qu'est ce nous politique qui nous englobe.
Merci beaucoup Magali Besson.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Magali Besson, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, nous terminerons cette série avec Richard Rechtmann sur l'histoire du traumatisme. Bonsoir.